Nous ne sommes peut-être pas aux Français habitués, nous ne connaissons peut-être pas trop l'expression éthique du travail. En anglais, on est certainement, et surtout aux États-Unis, on est plus habitués à cette expression, qu'on attribue du reste dans un contexte moderne, on attribue ça aux protestants, et on parle de Luther, on parle de Calvin aussi, et tout au moins pour peut-être pour les Américains, l'éthique de travail, c'est une croyance que le travail et la diligence ont un bienfait moral, et c'est aussi une valeur pour renforcer le caractère et la capacité individuelle. Il y a même un collège aux États-Unis qui s'appelle Georgia Piedmont Technical College, qui est un petit peu connu dans cette partie du monde. Et il parle de 10 traits de caractère, point de vue éthique du travail. Et dans ces 10 traits de caractère, il y a le caractère. Le caractère, l'apparence, la tendance, l'attitude, communication, etc. Mais le caractère, le développement donc du caractère est mentionné. Et nous sommes bien sûr concernés en tant que chrétiens par le développement du caractère, par la formation du caractère. Et en français, j'ai quand même trouvé, bon, c'est souvent plus neutre, cette question de éthique du travail, mais j'ai quand même trouvé ceci sur le site Ulule. Décrire votre éthique de travail revient donc à créer une liste de codes que vous devez suivre contre vents et marées. À partir du moment où vous suivez un code contre vents et marées, c'est aussi le fait de construire du caractère. Il parle de votre détermination, votre fiabilité, votre discipline, votre capacité à communiquer de façon positive et votre productivité. Tout ça, bien sûr, ça a à voir avec le caractère. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler sur l'éthique de travail. L'éthique du travail, on va commencer avec la satisfaction. Quand Dieu a recréé le monde, Dieu a travaillé. Et ce qui est intéressant, nous trouvons dans Genèse 1, que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, toute cette recréation, ce monde magnifique que nous voyons autour de nous. Et voici, cela était très bon. Donc Dieu était content de ce qu'il avait créé. Et ensuite, enfin, pas ensuite, mais lors de cette création, Dieu a aussi bien sûr créé l'homme. Il a créé Adam. Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. Et c'est marqué dans la Bible que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le cultiver et pour le garder. Voilà donc deux missions qui ont été données à Adam. Et ces deux missions s'appliquent toujours pour l'homme maintenant. Bon, dans un premier temps, donc, c'était pour le cultiver, pour travailler, donc, et pour le garder. Ce mot garder est traduit un peu différemment ailleurs. Vous trouvez, par exemple, dans Nombre, chapitre 3, que c'est marqué, ils auront le soin. Donc, Dieu nous a donné un travail, mais Dieu a voulu aussi qu'on prenne soin de ce que nous avons. En l'occurrence, pour Adam, c'était le jardin d'Éden. Et tout de suite, Dieu a donné un travail. Dès le début, Dieu a donné un travail à l'homme et lui a montré ce qu'il fallait faire. De la rabbinat traduit ce passage comme ceci. Pour le cultiver et pour le soigner. Et l'homme n'est pas très soigneux. L'homme apprend que maintenant qu'il n'est pas soigneux, il essaie de faire certaines choses. Mais c'est aussi une histoire de préservation. Beaucoup de peine. Et parfois, c'est difficile quand on a beaucoup de biens, de prendre soin de ce que Dieu nous avons, ce que Dieu nous a donné. Donc, ça implique le fait de le protéger et le préserver. Se donner la peine. Vous vous rappelez la parabole, bon, ce n'était pas pour cette raison-là que le Christ l'a donné, mais vous vous rappelez la parabole de l'homme riche qui avait une bonne récolte et qui n'arrivait pas, qui n'avait pas assez de place pour garder sa récolte et pour mettre de côté. Et il a abattu ses greniers pour, il voulait abattre ses greniers pour construire la plus grande. Bon, le motif n'était pas bon. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais il pensait gérer ce qu'il avait. Joseph aussi savait gérer. Et Dieu a donné le travail à l'homme avant même qu'Adam nomme les animaux. Dieu lui a donné un travail avant même qu'il lui ait donné une épouse. Et ça montre l'importance de travailler aux yeux de Dieu. Vous vous rappelez dans Ésaïe chapitre 65, on va juste si vous regardez, Ésaïe chapitre 65 et le verset 22. Ici, c'est un contexte. Le contexte, c'est la période, ce que nous pensons être 100 ans, que l'humanité dans son ensemble aura pour pouvoir apprendre la vérité, pour pouvoir développer justement ses caractères. Ésaïe chapitre 65 et le verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils vont travailler, ils vont jouir de ce qu'ils ont créé, ce qui est produit de l'œuvre de leurs mains. Une satisfaction profonde. Et un travail bien fait procure de la satisfaction. Parfois c'est difficile, parfois il n'y a pas la même satisfaction que si la situation était idéale, mais logiquement, un travail bien fait procure une certaine satisfaction. Dieu nous a créés pour travailler. Dieu ne nous a pas créés pour rien faire. Dieu nous a créés aussi, on peut aussi s'enrichir spirituellement, bien sûr, mais aussi intellectuellement. Et ça aussi, ça demande un effort. Ça peut être, bon, parce qu'on parle du mot travail, on peut peut-être penser uniquement au fait de faire un travail, de gagner sa vie, mais le progrès que nous pouvons accomplir, que nous accomplissons dans un projet, c'est aussi le fait de travailler. Et on a dit ceci, c'est un proverbe anonyme, la reconnaissance du travail bien fait est une récompense souvent bien plus appréciée qu'un salaire. La reconnaissance du travail bien fait est une récompense souvent bien plus appréciée qu'un salaire. Mais le travail est à la base de l'existence de l'homme. C'est central à son existence. Et si vous regardez Ecclésiaste, vous verrez qu'il y a une expression qui revient à maintes reprises. Il faut aussi, bien sûr, se rappeler que l'Ecclésiaste est écrit au point de vue humain, mais c'est aussi une base qui est importante pour nous. Ecclésiaste chapitre 2, verset 24, je vais vous donner un certain nombre de références, je ne vais pas m'y rapporter chaque fois. Dans Ecclésiaste chapitre 2, verset 24, nous lisons ceci. Il y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme de bien-être au milieu de son travail. Autrement dit, c'est bien ça, c'est bien central à notre existence, nous, les êtres humains, au milieu de son travail, mais j'ai vu aussi que cela vient de la main de Dieu. Donc Dieu est impliqué avec le fait de travailler, que ce soit central pour notre existence. Le rabbinat dit ceci, le même verset, et de se donner du plaisir au prix de son labeur. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, et de se donner du plaisir au prix de son labeur. C'est aussi, je l'ai constaté, émane de Dieu. Ça, bien sûr, c'est l'idéal, et nous n'avons pas toujours un travail qui nous procure toujours du plaisir, ou le même, ou un degré de plaisir plus élevé, mais c'est aussi le but, c'est quand même le but. Ecclésiaste chapitre 3, verset 13. Ecclésiaste chapitre 3, verset 13. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. C'est un ensemble. On mange, on boit, on se réjouit, mais c'est au milieu de tout son travail et c'est un don de Dieu. Vous pouvez regarder Ecclésiaste chapitre 5 et le verset 18. Ecclésiaste chapitre 5, verset 18, la même chose qui revient. Ecclésiaste chapitre 8 et le verset 15. Ecclésiaste chapitre 8, verset 15. Et là, on va regarder Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 9. Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 9. Jouis de la femme, pardon, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est là ta part dans la vie, au milieu de ton travail. C'est toujours central, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main, ensuite le verset 10 qui va de pair avec, tout ce que ta main trouve à faire, en travaillant, entre autres, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Nous avons l'opportunité, entre autres, de travailler pendant notre vie. Lorsque nous ne sommes plus là, nous n'aurons plus cette occasion de travailler. Bon, je ne parle pas, bien sûr, au niveau de la résurrection, mais sur un plan humain, nous n'avons que cette vie et nous avons une opportunité pour travailler pendant cette vie. Et du reste, quand on travaille 6 jours dans la semaine, 6 jours et pas 5, quand le sabbat arrive, nous pouvons vraiment apprécier le jour de sabbat. C'est vraiment un jour de fête. On est content quand le sabbat arrive, quand on a bien travaillé. Ça, c'est une chose, c'est que le travail est central à l'existence de l'homme. La deuxième chose que la Bible mentionne, une deuxième chose, c'est que la Bible parle d'un homme qui est diligent. Dieu insiste beaucoup, pour un chrétien, c'est important, et on sait bien que quand quelque chose est mentionné 2, 3 fois dans la Bible, c'est important, et là, c'est mentionné plus de 3 fois. Et être diligent dans le domaine du travail. Diligent, c'est-à-dire appliqué, zélé, actif, assidu. Ça peut être traduit, c'est parfois traduit différemment dans la Bible. Le même mot, ça peut être incisif, par exemple, traduit par incisif. C'est un herse dans Job, c'est un traîneau dans Ésaïe, aigu dans Ésaïe aussi. Mais c'est quelqu'un qui est assidu, actif et zélé. Nous le trouvons dans Proverbe chapitre 10 et le verset 4. Là, pareil, je ne vais pas lire toutes ces références. Proverbe chapitre 10, verset 4. Proverbe chapitre 12 et le verset 24. On va peut-être lire ça parce qu'il y a deux passages presque côte à côte. Proverbe chapitre 12 et le verset 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Et puis le verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Évidemment, c'est peut-être exagéré pour montrer à quel point il est paresseux. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est le même mot-là. Le Ostwald dit, le paresseux ne rôtit point sa chasse, mais les biens les plus précieux sont à l'homme diligent. Mais les biens les plus précieux sont à l'homme diligent. Il y a aussi Proverbe chapitre 13, verset 4. Et puis on va regarder le Proverbe, si vous voulez bien, Proverbe chapitre 21, verset 5. Parce que Il faut être diligent, pas uniquement dans le travail, mais il y a un autre domaine où il convient d'être diligent, c'est dans les projets. Dans les projets. Proverbe chapitre 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Bon, évidemment, quand la Bible parle des projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, ce sont des projets qu'on a, mais qu'on mène à bien, qui vont jusqu'au bout, qu'on concrétise. Ça peut être dans la vie moderne, par exemple, une étude de marché. Avant de se précipiter dans un travail ou quelque chose qu'on aimerait faire, on se donne de la peine, on fait une étude de marché pour voir si ce qu'on fait est faisable, si c'est sage, si c'est bon, s'il y a un marché, une étude de marché, avant de se lancer, avant de récolter les fruits. Mais celui qui agit avec précipitation, il ne prend pas le temps, justement, de penser, de réfléchir, peut-être parce qu'il n'est pas diligent. Dieu veut que nous puissions bâtir notre vie. C'est le fait de forger, de construire du caractère. 1 Corinthiens chapitre 3 parle de ce que nous pouvons bâtir, ce que nous allons bâtir sur le fondement de Jésus-Christ dans un domaine spirituel, mais le fait de bâtir sa vie est valable, existe pour tous les domaines de notre vie, y compris le fait de travailler. Nous construisons ou nous détruisons. Nous construisons ou nous détruisons notre caractère. Pour revenir à ce que j'ai dit au début du sermon. Et nous construisons, nous détruisons deux caractères dans cette vie. C'est un choix. C'est quelque chose qu'on fait sciemment, d'une façon délibérée. Je sais que je faisais quelque chose, je me suis dit, il y a pas longtemps, j'ai dit non, je vais pas faire comme ça, je vais faire autrement. Et c'était un choix qui était délibéré de ma part, à moi de tenir le coup pour que je revienne pas à faire ce que je faisais avant. Et le travail nous aide à construire. Le travail nous aide à construire ce caractère. Ça commence lorsqu'on se lève le matin. Il y a des gens qui sont matinaux, qui ont moins de difficultés peut-être à se lever le matin. Mais ça commence quand même en se levant le matin, quelle que soit la nuit qu'on a passée, pour s'appliquer. Et ça continue au cours de la journée avec de la peine, la peine que nous nous donnons au travail. Et nous avons, en fin de journée, logiquement, une certaine satisfaction parce qu'on a donné justement une bonne journée de travail. Parce qu'on a fait un travail, effectué un travail bien fait. Et quand l'être humain ne travaille pas, ça peut facilement engendrer la paresse. Pour rester au lit, pour être dilettante. On dit bien en français que l'oisiveté, c'est la mère de tous les vices. La retraite, on travaille pas. On travaille pas entre guillemets. Parce que Dieu veut qu'on travaille et il y a mille et une choses que nous pouvons faire, que ce soit intellectuel, que ce soit physique. Ceci dit, il faut qualifier ceci, il faut parler de l'âge, parce que au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, l'âge et la santé imposent ses limites. L'âge et la santé imposent leurs limites. Progressivement, nous sommes limités physiquement. Ça, c'est la vie, c'est comme ça. Mais nous avons la possibilité de travailler, de s'activer dans les limites de nos possibilités. Vous rappelez, ça fait, bon, c'est poétique et ça fait sourire d'un côté, mais vous vous rappelez dans Ecclésiens chapitre 12, on parle de la vieillesse et où la sauterelle devient pesante. Pour qu'une sauterelle devienne pesante, littéralement, il faut vraiment être très, très âgé, je crois. Je ne sais même pas si ça arrive. Mais c'est toujours la possibilité de travailler. Comme nous sommes plus âgés, nous avons toujours la possibilité de travailler, de servir, de produire et d'être actif. J'ai regardé, puisque ce qu'on fait maintenant, j'ai regardé sur Internet un programme Allô Docteur. Et dans ce programme Allô Docteur, il y avait le professeur François Forêt. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ce professeur, moi non plus. Mais elle est médecin, elle est professeure de gériatrie. Gériatrie, donc, une question de la médecine de la personne âgée, des personnes âgées. Et c'est un métier qui se consacre aux maladies dues au vieillissement. Cette personne, le professeur François Forêt, est également président, je crois que c'est président, du International Longevity Center, c'est-à-dire le Centre international de longévité. Et donc, c'est quelqu'un qui est vraiment qualifié. Et elle donnait des réponses à des questions qui ont été posées. Il faut savoir, il faut donc tenir compte de la réalité. La réalité, c'est que la force musculaire décroît de 25% entre 40 et 65 ans. Ce n'est pas rien. En revanche, les capacités, c'est ce que précisait, les capacités d'apprentissage sont conservées, surtout si elles sont fréquemment entraînées. Les capacités de synthèse, d'anticipation et d'organisation progressent, ce qui fait du senior un atout dans l'entreprise. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas comme ça maintenant. Alors, je pense que ça commence à changer. Et intellectuellement, bien sûr, nous pouvons nous enrichir, mais ça aussi, ça demande des efforts. La mémoire, et peut-être si vous êtes plus âgé, vous avez eu cette expérience, la mémoire à court terme peut se dégrader à partir de 50 ans. Peut-être pas pour certaines personnes, c'est plus âgé que 50 ans, mais à partir de 50 ans, ça peut se dégrader. Le travail est bénéfique et comme toutes les formes d'activité, augmente l'espérance de vie en bonne santé. Ça, c'est important. Le travail est bénéfique, Dieu a mis le travail au centre de notre existence, et voilà que l'homme découvre que le travail est bénéfique et comme toutes les formes d'activité, augmente l'espérance de vie en bonne santé. Toutes les études démontrent le bénéfice sur la mémoire. Reculer l'âge de la retraite diminue de 15% le risque de démence si on prend sa retraite à 65 ans au lieu de 60. Reculer l'âge de la retraite diminue de 15% le risque de démence si on prend sa retraite à 65 ans au lieu de 60. Nous avons dans la Bible des exemples des hommes de Dieu qui ont travaillé. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et vous rappelez l'incident avec Lot, leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Quand on a beaucoup de biens, quand on veut gérer ceci correctement, c'est du travail. Et pour délivrer Lot, il a armé 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Tout se gère dans la vie. Et Abraham gérait beaucoup, y compris ses relations avec ses serviteurs, qu'ils soient des serviteurs qui disposaient à aller se battre pour le maître, à même donner leur vie pour le maître, et risquer leur vie pour le maître. Abraham était très actif. Sans parler des puits. Les puits à l'époque, c'était quelque chose, c'était beaucoup de dépenses, point de vue temps et à point de vue travail. Et Isaac a continué ce même travail. Genèse chapitre 26, verset 12. Genèse chapitre 26, et le verset 12. Isaac sema dans ce pays et recueillit cette année le centuple. Le centuple, c'est immense. Car l'Éternel le bénit. C'est-à-dire une bénédiction de Dieu, mais il fallait à l'origine qu'Isaac sème, il fallait qu'il planifie, qu'il fallait qu'il gère, et une fois qu'il reçoit le centuple, il fallait qu'il se préoccupe de ce centuple, qu'il le mette à l'abri de récolte. C'est tout, comme je dis, l'abondance se gère. Mais il fallait que, tout comme Adam, il fallait Il gère ce que le jardin. Donc, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et Jacob, nous pouvons voir avec Jacob que les traits de caractère qu'avait son grand-père et son père étaient aussi avec lui. Genèse chapitre 31, verset 39. Il avait des conditions de travail qui n'étaient pas faciles du tout. Nous sommes ici, je saute au milieu d'un contexte, nous sommes ici quand Laban l'a rattrapé, après qu'il est parti, et ils se sont disputés. Et Jacob se défend, dans Genèse chapitre 31, verset 39, en parlant de son beau-père, je ne t'ai point rapporté de bête déchirée. J'en ai payé le dommage. Tu me demandais ce que m'a volé de jour et ce que m'a volé de nuit. Et c'était une des responsabilités d'un berger à l'époque, justement, de protéger le troupeau. Verset 40. C'est un travail solitaire, du reste. Et il faut savoir que Jacob, Ésaü s'est marié, il avait 40 ans. Et c'est après qu'Ésaü s'est marié à 40 ans qu'Isaac a parlé à Jacob qu'il aille vers sa famille pour trouver une épouse. Et donc, c'était, puisqu'ils étaient jumeaux, il avait en tout cas 40 ans. Ben, il avait aussi beaucoup de projets. 31, verset 40. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Il se donnait beaucoup de peine avec son métier. Vous vous rappelez dans Luc, à la naissance du Christ, quand les anges sont apparus aux bergers, qu'ils étaient là de nuit. On va regarder ça, Luc chapitre 2, verset 8. Luc chapitre 2, verset 8. Le travail de berger n'était pas facile. Il fallait qu'ils soient des hommes diligents, qui prennent soin justement du troupeau. Luc chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder le troupeau. Les veilles de la nuit. Donc, il y avait de plusieurs, comme nous le savons, il y avait plusieurs périodes dans la nuit et ils veillaient de la nuit, des champs, des veillées de la nuit pour garder le troupeau. Ils étaient diligents, ils prenaient soin de ce qu'ils avaient parce que ils voulaient que le troupeau soit protégé des bêtes de proie, et des dangers. Donc, je reviens à Genèse chapitre 31, verset 40. Il était prévenant, il se souciait du troupeau, verset 40. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans, verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. J'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. Il a maintenant donc 60 ans en tout cas. Mais déjà, en allant dans sa famille, il était plus tout jeune. Mais il faisait un travail, c'était comme un service qu'il rendait. J'ai servi, c'est bien marqué, j'ai servi, je t'ai servi. Et puis le verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant envoyé à vide. Ensuite, une phrase que j'aime beaucoup ici, Dieu a vu mes souffrances et le travail de mes mains. Dieu a vu le travail de mes mains. Parce que Dieu voit tout. Dieu voit le travail de nos mains. Dieu regarde. Et Dieu a protégé Jacob. Dieu a béni Jacob parce qu'il a vu le travail de ses mains. Il a vu la peine qu'il s'est donnée. Et quand c'est la même chose maintenant, Dieu peut nous bénir quand on se donne de la peine au travail. Quand on, oui, c'est ça, quand on se demande de la peine au travail. Les hommes de Dieu, comme j'ai dit, travaillaient. Il y avait Néhémie. Et quand nous regardons l'exemple de Néhémie, nous voyons un certain nombre de choses dans Néhémie, chapitre 2, verset 12. Il y a un certain nombre de principes. Ça englobe un certain nombre de choses que nous pouvons également utiliser en ce qui nous concerne. Dans Néhémie, chapitre 2, verset 12. On va commencer avec le verset 11. Néhémie, chapitre 2, verset 11. J'arrive à Jérusalem, donc il a la permission du roi, et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne, et que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il avait une vision de ce qu'il allait faire. Bon, c'est Dieu qui lui a mis dans le cœur, mais nous, c'est pareil. Si on est converti, Dieu peut nous mettre une vision, entre guillemets, dans le cœur. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Donc, il avait une vision et il priait aussi. Il priait aussi. Chapitre 2, verset 18. Donc, vision, il priait. Verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et dire, levons-nous et bâtissons. Ils dirent, il commence à leur raconter ce qui s'est passé, il avait cette vision, il a pu partager cette vision, et dire, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. C'est aussi vrai à différentes époques de l'Église, où Dieu a appelé quelqu'un, et qui avait une vision, qui a commencé à se mettre au travail, et Dieu a appelé d'autres personnes, pour former une équipe. Il a pu partager cette vision. Chapitre 4, verset 6. Ils ont commencé à construire le mur de Jérusalem, qui était tombé en ruine. Chapitre 4, verset 6. Il fallait une vision pour le faire, parce qu'il y avait la persécution, il y avait l'opposition, c'était difficile. Chapitre 4, verset 6. Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partie achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Quatrième chose, donc, le fait de prendre à cœur un travail quand on le fait. Même si c'est pas forcément agréable, même si c'est peut-être difficile, pénible par moment. Ça me fait penser que j'ai parlé une fois à un de mes beaux-frères qui avait fait des études plus tard dans la vie. Et je crois qu'il m'a dit quelque chose du style que 80% de son travail, c'était répétition. Il avait porté un diplôme, je crois qu'il avait une licence. Et bon, 20%, c'était le fait d'utiliser peut-être ce qu'il avait appris. Mais je crois que c'est les 80% qui étaient la répétition. Il y a toujours, souvent, une répétition dans le travail. Mais le tout, c'est de prendre à cœur le travail en question. Chapitre 4, verset 21. Chapitre 4, verset 21. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, parce que justement, il risquait d'être attaqué par l'ennemi. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. L'apparition des étoiles, c'est même plus tard que le coucher du soleil. Et donc, ils étaient assidus. Ils étaient zélés. Il faut savoir que si vous regardez chapitre 6, verset 15, vous verrez qu'il s'agit du mois d'Elul. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul. Dans le calendrier hébraïque, calendrier sacré, le Elul, c'est le 6e mois. Nous célébrons les fêtes du 7e mois. Et ce 6e mois correspond donc au mois d'août, mois de septembre, peut-être début septembre. Pour avoir des conséquences, si vous travaillez du matin depuis le lever du soleil jusqu'à l'apparition des étoiles, et qu'il s'agit en plus de l'Elul, il s'agit du 6e mois, c'est nettement plus que 12 heures dans la journée. Évidemment, il faut mettre les choses dans un contexte. Nous n'avons pas la force, la capacité, et c'est pas le même travail non plus, mais nous n'avons pas cette force, la capacité de travailler comme ces gens travaillaient à l'époque. Mais c'est pour montrer leur zèle, pour montrer leur persévérance, qu'ils étaient zélés et qu'ils voulaient et qu'ils travaillaient beaucoup. C'était juste avant les fêtes. Et ce zèle qu'ils avaient, le trouvant dans un domaine religieux, chapitre 9, verset 1, chapitre 9, toujours Néhémie, chapitre 9, verset 1. Là, c'était un jeune qui proclamait pour revenir, pour faire ce que Dieu a voulu qu'il fasse. Ils se sont donné la peine, ils se sont même imposé des choses. Chapitre 10, verset 32. Nous nous imposons aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiercé par année pour le service de la maison de notre Dieu. Ils se sont imposés des choses. C'est une autre clé pour le fait de travailler, pour être discipliné, parce que le travail, ça sous-entend de la discipline, et le fait de s'imposer des choses, ne serait-ce que quand on se lève, et bien, bien sûr dans le domaine spirituel. Verset 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits des arbres. Nous résolûmes, donc, une autre décision qui se sont imposées. Et donc, il y avait le travail qui était accompli, bon, avec l'aide de Dieu, c'est certain, mais ils se sont donné beaucoup de peine. Le Christ, et bien sûr, était parfait. Et on peut dire, oui, mais on peut, si on prend le Christ comme modèle, oui, justement, le Christ est notre modèle. Le Christ était parfait, nous ne sommes parfaits, loin s'en faut, mais le Christ reste notre modèle. Et quand nous regardons comme le Christ a travaillé, dans Luc chapitre 6, verset 12, c'est pareil, nous ne pourrions pas faire ce genre de choses maintenant. Je pense pas. Luc chapitre 6, verset 12, et Dieu ne nous demande pas de le faire. Mais c'est à quoi nous devrions aspirer. Luc chapitre 6, verset 12. Le Christ était parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est déjà, ça peut être difficile de prier par moment. Et le Christ, surtout quelque chose qui était d'une importance exceptionnelle, il a passé toute la nuit à prier Dieu avec la ferveur qu'on imagine. Verset 13, quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Voilà qu'il a eu une nuit blanche, en plus, il a beaucoup travaillé d'une façon assidue. Verset 14, Simon, il nomme, donc la Bible nomme les 12 apôtres. Et puis ensuite, verset 17, toujours cette nuit blanche, il n'y a rien qui indique ici, bon, la Bible n'a pas tout le détail forcément, mais il n'y a rien qui indique ici dans le texte qu'il y avait un arrêt. Verset 17. Il descendait avec eux, et il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée de Jérusalem. Mais comment voulez-vous qu'ils se reposent? Et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Certainement que le Christ s'est reposé par la suite, mais dans un premier temps, on ne voit pas qu'il y avait du repli. On ne voit pas qu'il y avait du repli. Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Le Christ, quand il était sur terre, était parfaitement conscient de sa mission, de pourquoi il était là, et il avait inévitablement un sens d'urgence. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est la même chose pour nous. Nous avons l'occasion de prêcher l'évangile maintenant, collectivement, et le jour viendra où nous ne pourrions pas le faire, parce que la situation sera trop difficile. Ça rejoint Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, que nous avons déjà lu. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts ou plus là. Ça nous rejoint. Nous avons une vie physique, c'est maintenant. Il avait une mission, il avait aussi une motivation. Et à nous aussi d'avoir une mission et d'avoir aussi une motivation. Jean chapitre 5, verset 17. Jean chapitre 5, le verset 17. Mais Jésus leur répondit, là aussi je saute au milieu du contexte, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Dans le Martin, la version Ostwald, on traduit ce passage en utilisant le mot travail. Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Et le Christ, il n'a pas changé ce point de vue-là. Le Christ travaille toujours. Le Christ intercède pour nous. Et parfois, pour nous, c'est beaucoup de travail, justement. Et mais quand vous regardez Dieu, quand vous voyez ce que Dieu fait, le caractère de Dieu, Dieu agit, Dieu écoute tous les êtres humains qui viennent des prières, qui sont, on va dire, corrects, si je puis dire. Les, Dieu pardonne, Dieu exauce nos prières, Dieu nous protège, Dieu nous bénit, Dieu intervient, il change les circonstances, il intervient à travers le temps. Dieu nous accorde faveur aux yeux de certaines personnes. Et Dieu nous donne la force pour faire ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes, de par nous-mêmes. Dieu nous inspire et Dieu nous guide. Et il n'y a certainement pas fait une liste complète. Et Dieu est bon pour tous ses enfants, mais Dieu travaille tout le temps. Dans le monde à venir, dans le royaume, nous travaillerons tout le temps. Nous n'avons pas besoin de dormir. Et nous allons avoir des projets immenses, des projets formidables, et nous allons être à l'œuvre constamment. Bien entendu, il faut un équilibre dans la vie. On dit bien qu'il y a un point de rendement décroissant. C'est-à-dire que quand vous travaillez beaucoup, beaucoup, ce que vous produisez augmente sans cesse, mais à un moment donné, on commence à devenir fatigué et le rendement baisse. Marc chapitre 6, 31. Marc chapitre 6, 31. On a aussi besoin de détente, on a aussi besoin de repos, sans que ça donne, ça devienne notre priorité. C'est un équilibre en tout. Marc chapitre 6, verset 31. Et c'est vrai que la vie, maintenant, est stressante et difficile. Marc, chapitre 6, 31. Jésus, donc, les apôtres venaient de faire ce que le Christ les envoyait faire. Verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Ils avaient beaucoup travaillé, ils avaient une mission, Verset 31, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils avaient besoin de repos, ils avaient besoin de détente. Dans la circonstance, situation-là, ils n'ont pas pu le trouver. Mais c'est seulement pour montrer que justement, ça fait partie, justement, aussi de la vie. Ma femme et moi, nous avons un dentiste, ici, Sainte-Foy-la-Grande. Et, C'est un exemple incroyable parce que il a le cancer des os. Le cancer des os, c'est le cancer, je pense, le plus douloureux qui existe. Le président Pompidou est mort d'un cancer des os. Et cet homme qui a dépassé, je crois, l'âge de la retraite pour la plupart des gens, vient travailler, je dis bien, vient travailler quand il peut. Et quand il a soigné ma femme il y a quelque temps en arrière, il était pas plié en deux, mais il était plié, bien plié, parce que à cause de sa maladie, il prend la morphine pour la douleur, et il fait ce qu'il peut, mais il continue à travailler. L'autre exemple que j'ai, c'est mon médecin. J'avais besoin de renseignements cette semaine et je n'arrivais pas à joindre mon médecin. J'avais été chez le médecin et puis j'avais besoin de renseignements complémentaires et j'avais oublié cette histoire. Et j'étais avec un centre téléphonique. J'avais demandé à ce qu'il laisse un message. Ils ont laissé le message. Il m'a téléphoné, je crois que c'était après 8 heures le soir. C'était tard et j'avais complètement oublié, j'avais mis un coin dessus. Il m'a téléphoné parce que j'avais demandé à ce qu'il me téléphone. Et moi, j'étais impressionné par cette éthique du travail. Parce que le travail, ça s'apprend. Ça s'apprend déjà petit. Il faut déjà vouloir travailler. Deux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8. Et ce que nous apprenons dans le travail, c'est nous apprenons la persévérance. Nous apprenons la diligence. Nous apprenons à bien faire et à donner. Deux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8. Et ce qui m'a impressionné aussi avec mon médecin, c'est qu'il était sur le point de partir en vacances. Alors, au moins, ça m'a donné l'opportunité de lui souhaiter de bonnes vacances. Deux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de nous. Il voulait pas être en charge, donc, des gens, des membres de l'Église ici, et ils se sont donnés de vraiment beaucoup de peine. Beaucoup, beaucoup de peine. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter, un modèle de travail à imiter. Les gens, donc, qui donnaient, l'apôtre Paul qui donnait sans cesse. Et verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Qui ne veut pas travailler. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler à cause de leur maladie. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire beaucoup parce qu'ils sont très âgés. Il s'agit ici de quelqu'un qui ne veut pas travailler et qui ne mange pas non plus. Dieu a dit qu'il fallait, Dieu a dit à l'homme qu'il allait travailler à la sueur de son visage, à la sueur de ton visage, que tu mangeras du pain. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, or qu'ils auraient pu travailler, mais qui s'occupent des futilités. Verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant, j'insiste beaucoup sur le travail, en travaillant paisiblement, à manger leur propre pain. Et ensuite, à partir du verset 13, il donne un avertissement sérieux. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et on peut aussi faire le bien quand on travaille. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, ce que on vient de lire en partie, nous disons dans cette lettre, notez-le, n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Il y a un autre domaine où il est question de travail, entre guillemets. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Actes chapitre 6, verset 4 parle de à nous appliquer à la prière, à appliquer à la prière. Romains chapitre 12, verset 12, Romains 12, 12 parle de persévérer dans la prière. Et 1 Thessaloniciens 5, 17, 1 Thessaloniciens 5, 17 parle de prier sans cesse. Je répète ces trois références. Actes 6, 4, Romains 12, verset 12, et 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ça exige de prier de cette façon-là, ça exige, ça demande un effort. Quand nos prières sont comme l'encens, c'est un effort, et cet effort est de la racine du travail, de bien travailler. Dans les deux cas, que ce soit travailler proprement dit, ou que ce soit travailler entre guillemets lorsque nous prions, c'est un effort qui est exigé. Surtout quand vous commencez, quand vous commencez à énumérer les détails, c'est un effort, quand nous évoquons les souffrances, la maladie, une situation pénible, c'est le fait de se donner de la peine. Le fait de se donner de la peine. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Paul était extrêmement zélé. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Donc, c'est la même chose que pour le travail, c'est un effort. Il faut être alerte, il faut un effort, il faut se donner de la peine quand nous prions. Prier, c'est valable pour le fait de prier, c'est valable pour le fait d'étudier, c'est valable aussi pour le fait de méditer, il faut se donner de la peine, et c'est aussi valable pour jeûner régulièrement, pour que nous soyons bien spirituellement. Il est certain qu'il n'y aura pas de paresse dans le royaume de Dieu, enfin, tout au moins pas parmi les êtres spirituels. Proverbes chapitre 15, verset 19. Proverbes chapitre 15 et le verset 19. Ici, comme si souvent dans la Bible, si souvent dans les proverbes, il y a les deux voies qui sont mentionnées, la voie de Dieu et la voie opposée. Dans Proverbes chapitre 15, verset 19, il parle donc de ce de chemin. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Deux voies opposées. Et la voie qui est opposée à la voie de Dieu est décrite comme quelqu'un qui est paresseux. Le chemin du paresseux. Quand nous regardons la parabole du talent dans Matthieu 25, avec laquelle nous sommes familiers, vous vous rappelez que celui qui avait les cinq talents, celui qui avait deux talents, celui qui avait un seul talent. Et vous vous rappelez ce que le Christ a dit, ce que le Maître a dit à celui qui avait le seul talent. Il a dit, serviteur méchant et paresseux, parce que il n'a même pas mis ça à la banque, il aurait pu avoir des intérêts. Dieu veut que nous utilisions nos talents, que nous développions ce qu'il nous a donné à la base pour faire fructifier, pour faire croître. Dieu nous donne dans notre vie un certain nombre de choses, un certain nombre de talents, un certain nombre de possibilités, et Dieu s'attend à ce que nous faisons, nous utilisions au maximum de nos capacités. Et si nous faisons ça, nous aurons réussi. C'est ce qu'ils ont fait, les deux qui avaient les 5 talents et les 2 talents. Nous avons tous des capacités. Parfois, il faut un effort pour les découvrir. Mais il nous faut faire quelque chose. Et Dieu nous a donné la vie. Dieu s'attend à ce qu'il y ait une croissance. Mais Dieu nous donne, Dieu nous offre l'aide nécessaire pour que cette croissance puisse se réaliser. Et vous rappelez ce qui s'est passé aux serviteurs qui étaient paresseux, qui étaient méchants, serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres de dehors. C'est difficile parfois, dans certaines circonstances, d'appliquer ce que je vais dire maintenant, mais c'est notre but, c'est de prendre plaisir à son travail. Prendre plaisir à un travail bien fait. Parce que même si c'est répétitif, on peut quand même faire un bon travail dans la mesure de nos possibilités. Il faut être réaliste. Un accomplissement et une satisfaction. J'ai fait référence à Ecclésiaste chapitre 3, verset 13 au début du sermon. Ecclésiaste chapitre 3, verset 13. Je vais vous donner ce verset maintenant dans l'arabina. Ecclésiaste chapitre 3, verset 13. Et toutes les fois que l'homme mange et boit, jouissant du bien-être qu'il doit à son labeur. Jouissant du bien-être qu'il doit à son labeur, c'est là un don de Dieu. De Martin, Ecclésiaste chapitre 3, verset 22, David Martin, Ecclésiaste chapitre 3, verset 22, « J'ai donc connu qu'il n'y a rien de meilleur à l'homme que de se réjouir en ce qu'il fait, parce que c'est là sa portion, car qui est-ce qui le ramènera pour voir ce qui sera après lui ?» Après lui, c'est fini. C'est maintenant qu'il faut s'appliquer. Et le dernier point que j'ai voulu évoquer dans ce sermon, c'est le fait de comprendre pour qui nous travaillons vraiment. Le Christ a dit, un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Un seul est notre maître. Et Dieu nous forme aujourd'hui, nous chrétiens, pour pouvoir régner avec lui, pour l'assister dans le monde à venir. Et il y a certaines choses qu'il nous faut avoir au préalable, qui sont indispensables, qui sont prérequis. C'est le fait d'avoir appris justement à travailler. Il nous faut, c'est pas la richesse, c'est pas les statuts dans cette vie qui comptent. Bon, la richesse, ça peut venir. Si on travaille bien, ça dépend peut-être où nous vivons. Mais ce qu'il nous faut apprendre, c'est le caractère et l'obéissance à Dieu, d'une part, l'amour pour notre prochain, deuxièmement, et le fait d'avoir une foi en Dieu, à travers les opportunités que Dieu nous donne maintenant. Dieu nous donne des opportunités à nous d'apprendre, à travers les opportunités, à travers les capacités que Dieu nous a données à l'origine, d'apprendre le caractère d'obéissance à Dieu, l'amour pour notre prochain et la foi en Dieu. Aussi, à nous d'utiliser au maximum et ce que nous avons est conscient que nous travaillons pour Dieu à l'origine, enfin à l'origine, à la base, et de le faire avec zèle et passion, joie et amour. Dieu veut que nous utilisions ce que nous avons. Dieu nous a confié des talents, des aptitudes et des capacités. Et je crois que comme vous, je crois que comme moi, pardon, vous aimeriez aussi entendre le maître nous dire, lorsqu'il revient, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître.